Carrefour.
Quand vous me dites
« C'est génial les capsules, c'est toujours la bonne dose !»
Eh bien j'ai juste envie de vous dire qu'avec 34% de remise immédiate, la lessive en capsule 3 en 1 skip 26 lavages est à 6,84€ seulement au lieu de 10,37€. Et c'est jusqu'au 28 avril chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. 549 grammes, soit 12,46€ le kilo, détails sur carrefour.fr. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Bienvenue si vous nous rejoignez dans Estelle Midi, tous les jours midi 15h sur RMC et sur RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Estelle n'est pas là, elle est encore un peu souffrante, mais ça va mieux et elle sera de retour parmi nous très vite. Avec moi aujourd'hui Alfred Orange qui nous apporte toutes les infos et qui nous permet de tout comprendre. Perico Legas, journaliste à Marianne, Fatima Benomar, militante féministe, et puis Thierry Moreau, journaliste. À 14h, on parlera du chant du coq, des odeurs de la campagne, des tracteurs. Est-ce qu'on doit tout supporter quand on vit au vert? À 14h30, les immanquables d'Alfred Orange. On parlera notamment de Jean-Luc Mélenchon qui se voit déjà Premier ministre, ou encore de l'État qui devra rembourser la facture des gilets jaunes à Toulouse. Enfin, le quiz d'Estelle, ce sera vers 14h50 avec à gagner aujourd'hui Alfred.
Toute cette semaine, on vous offre la possibilité de partir pour 4 personnes avec VVF. Vous allez pouvoir choisir parmi plus de 100 destinations partout en France, profiter des activités sportives, rando, VTT, paddle, des activités en pleine nature pour remporter votre semaine VVF. Vous appelez le 3216, touche 4, ou envoyez le mot quiz au 7 3216. Quiz au 7 3216.
C'est l'histoire du jour, celle de Noyant-sur-Sarthe, commune rurale d'un peu plus de 2600 âmes dans la Sarthe. Une commune en guerre contre certains de ses nouveaux habitants. En cause, Alfred, ce qu'on entend, les bruits, ce qu'on ne sent pas, mais aussi les odeurs.
Oui, le bruit de clocher, le chant du coq et même le bruit du trafic routier, ça dérange certains riverains là-bas, notamment une habitante qui témoigne, qui était venue chercher le calme dans cette commune. Elle dénonce notamment le passage incessant des camions. D'après elle, les poids lourds circulent sans discontinuité de 5h du matin à 21h le soir. Cette habitante, elle s'est installée dans cette commune il y a un an et elle se dit plus embêtée par le trafic que quand elle était en centre-ville du Mans, un comble. Alors, à l'inverse, le maire de la commune s'est lancé dans une campagne d'affichage pour défendre les particularités de son village. On peut y lire notamment sur ses affiches « Si vous appréciez tout ça, vous êtes les bienvenus. En cas d'allergie, bonne route. Pourtant, depuis un an et demi, il y a une loi qui sanctuarise la notion de patrimoine sensoriel des campagnes dans le droit français. Ce texte, il a un objectif, Rémi, c'est éviter ce qui se passe en ce moment à Noyant, à savoir que la loi puisse dissuader les poursuites contre les mairies en cas de clocher trop bruyant, par exemple.
Et j'ai même lu dans l'article que tu nous citais à l'instant, Alfred, ce maire qui a posé la question à certains de ses habitants qui plaignent des bruits, des odeurs en général, s'ils avaient visité leur maison quand même avant de l'acheter, et ils lui ont répondu oui, on est venu un dimanche après-midi. Lundi, c'était pas forcément la meilleure des idées. En tout cas, on vous pose cette question et vous nous appelez au 3216 et je vous la pose aussi, je parle à ceux qui sont autour de moi et je vais commencer, tiens, par Fatima. Mm-hmm. Fatima, chant du coq, odeur, tracteur, est-ce qu'on doit tout supporter lorsqu'on habite à la campagne?
Alors, les citadins ne peuvent pas vraiment faire les coqs, eux, parce que je peux vous assurer qu'en ville, il y a des bruits et des odeurs. Alors, c'est pas de la bouse de vache, c'est plutôt de l'urine masculine en général, mais et de la pollution et du trafic de voitures. Oui, bon, vous n'avez pas nié que ce sont les hommes qui
premièrement plein.
D'accord.
Voilà, mais parce que la femme ne peut pas
faire une heure sur
parce que la femme ne peut pas faire pipi sur un mur.
Sur les odeurs du vin.
Voilà, en tout cas, elle le fait moins souvent. Mais en tout cas, donc déjà, l'état des lieux en termes de comparatif de bruit et d'odeur, je ne suis pas sûre que les villes s'en sortent mieux. Donc vous me direz, c'est souvent l'argument pour lequel on va à la campagne.
Mais à la campagne, il y a des bruits et des odeurs aussi.
Voilà. Donc, mais en vérité, ce qu'il faudrait savoir, c'est est-ce que les personnes qui sont nées, qui vivent à la campagne, en sont satisfaites? Parce que quand on pose ce débat en le mettant en contraste avec la réaction des citadins, de fait, je pense qu'il y a une manière de vouloir défendre son terroir qui dit « mais non, nous, on est très très heureux comme ça ». Et peut-être qu'ils ont aussi envie, eux, d'une évolution sur la restriction de, notamment des nuisances sonores et tout. Mais bon, si eux, ils en sont contents et que ce sont effectivement le patrimoine sensoriel de leur coin, il n'y a pas de raison que des personnes viennent leur imposer un autre modèle.
Thierry, qui
vive le chant,
vous
du
ne
coq,
voyez pas en radio,
les chants,
mais
vive
de la
les
tête.
Clochers dans les villages, et puis même si de temps en temps ça pue parce que l'agriculteur à côté a mis du fumier dans son champ, ça dure quelques heures, c'est pas très grave. Moi, je pense qu'il faut lutter contre, parce que peut-être que ça sent pas très bon dans la ville, mais il y a quand même une volonté de vouloir importer l'aseptisation urbaine à la campagne, et ça c'est pas possible. La campagne, c'est quelque chose qui est pas tout à fait nickel. Quand on va dans son jardin ou quand on va se balader en forêt, faut mettre des bottes, parce que si on y va avec des petits mocassins, évidemment ça va mal se passer. Je vais juste vous raconter une histoire. Dans ma famille, il y a quelqu'un qui a vendu une maison qui est une maison normale, mais avec des beaux arbres tout autour, et ils ont vendu à ce qu'on appelle aujourd'hui des néo-ruraux, c'est-à-dire des gens qui étaient à la ville et qui voulaient aller à la campagne.
La maison, elle est en milieu rural.
En milieu rural
campagne,
absolu.
Ouais.
Et donc déjà ils ont eu du mal à entretenir la maison parce qu'il y avait toujours quelque chose à faire, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans une maison à la campagne. Et surtout, comme les arbres, à l'automne, ça faisait des feuilles, ils ont coupé tous les arbres. Et du coup, la maison a perdu de son charme de manière incroyable, parce que du coup, c'était juste une maison au milieu d'un...
Ils ont pas fait un parking en béton, non ?
Je sais pas, mais
peut-être,
ils auraient
depuis
pu,
peut-être.
Ils voulaient pas de feuilles qui tombent, donc ils ont coupé tous les arbres, dont certains étaient remarquables. Tout ça pour dire que tous les lieux de résidence ont leurs inconvénients. Je pense que dans la ville, il y a la concentration, il y a effectivement dans les parkings.
C'est pas aseptisé, les villes, hein, en termes de pollution.
Oui, non, mais il y a tout lieu de résidence a ses inconvénients. À la campagne, il y a ce qu'on peut appeler des inconvénients quand on a des oreilles un peu chasses, qui peuvent être le bruit des cols, etc.
Non, mais ça va. On a l'impression quand même, parce que c'est pas la première fois qu'on entend ce genre d'histoire là depuis quelques années, qu'il y a quand même ce fantasme pour un certain nombre d'urbains, tu as raison, qui se confrontent à la pollution, aux odeurs nauséabondes, au bruit du trafic. On va aller à la campagne et là, ça sera le calme absolu.
Mais oui, mais
ça sera le silence.
Non, il y a des chiens qui aboient parce que il y a des chiens qui se baladent derrière. Il y a quelquefois des chasseurs qui sont dans le champ et il y a des plombs qui atterrissent sur
ce que tu vis.
La table, c'est ce que je vis moi. Bon, bah, c'est pas grave. C'est bénéfice. Alors, pour terminer sur la question, entre le bénéfice et les inconvénients, pour moi, les bénéfices sont très supérieurs.
Péricot, le chant du coq, l'âne, les odeurs, le tracteur, le tas de fumier, lorsqu'on habite à la campagne, est-ce qu'on doit tout supporter ?
Quand je ne les entends plus, l'angoisse me gagne.
Ouais.
C'est quand j'entends plus mon clocher, mon coq, mon tracteur, broum, enfin voilà, quand je sens plus le fumier.
Donc t'es angoissé.
Je me dis, ça y est, je dis non au grand remplacement. Ils veulent remplacer la campagne par des faubourgs de la ville, ces crétins. Voilà, la France, c'est ça. La France, elle chante le coq, c'est le clocher, c'est voilà. Quel que soit le son, d'ailleurs, je ne m'en tiens pas à ce critère culturel-là. Voilà, la vie de la campagne, c'est la vie de la nature, et heureusement. Et les endroits où l'on remet aujourd'hui le son du clocher, qu'on le remet à un coq, j'ai acheté un coq, et je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ? Les voisins sont venus me remercier. Voilà, et quand ils entendent pas le coq, ils me disent « Et comment va le coq ?» J'ai dit « Non, c'est que ce matin, il s'est réveillé un petit peu en retard. Il avait fait la foire hier soir avec les poules. C'est pour ça. Et le bruit du tracteur, voilà, c'est la vie. C'était en fait ce que ces gens-là veulent tuer, c'est la vie. C'est l'âme du paysage, c'est les sensations. Voilà. Et je comprends ces gens qui sont aseptisés et qui viennent là pour coloniser. Ce sont des colons avec des casques coloniales. Ils viennent coloniser un territoire.
Heureusement que tu ne caricatures pas.
Non, mais je les connais, je les côtoie, je discute avec eux en permanence. Ils arrivent, ils amènent leur système. Ils veulent nous aseptiser, nous uniformiser. Eh bien non, la nouvelle résistance aujourd'hui, c'est le chant du cloc et le son du clocher.
Non, dans les villes,
le
tu habites à côté d'une église, elle sonne toutes les heures.
Mais il y a des villes, il y a des clochers urbains.
T'as des grandes villes qui ont cessé de faire ça, justement. Thierry est avec nous au 32-16. Bonjour Thierry.
Oui, bonjour.
Merci bonjour. D'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. On est à Cazeneuve, dans le Vaucluse, c'est ça ?
Oui, c'est ça. À cheval sur plusieurs communes, parce que j'ai une exploitation agricole sur ce secteur géographique.
D'accord, voilà. Très bien. Donc, Thierry, les bruits, les odeurs de la campagne, est-ce qu'on doit tout supporter quand on y habite ?
Bien sûr qu'il faut les supporter, bien sûr. Et je remercie Péricot d'avoir pris avec beaucoup de gouaille, cette défense de l'agriculture et puis de l'activité économique que constitue le milieu agricole avec tout son charme. On n'est pas une industrie, mais à un moment donné, il est vrai que la campagne, c'est du bruit de tracteur, c'est du bruit de tronçonneuse, c'est des engins d'élagage, c'est pour ma part des activités d'élevage.
Avec vous élevez quoi moutons.
Alors j'ai un gros troupeau de moutons, j'ai 2400 de moutons avec un peu d'élevage caprin un foncier qui est de plus en plus difficile à acquérir justement à cause de ces néo-ruraux parce que je suis dans un secteur géographique qui est le Nord Luberon.
Ah oui, bah oui. Très convoité.
Hautement prisé par la junte étrangère, mais au départ parisienne, qui ont acheté des résidences secondaires. Mmh. Et depuis une décennie, eh bien, en effet, tous les étés, c'est un va-et-vient de navettes téléphoniques avec les mairies, avec les locaux.
De ces nouveaux habitants qui se plaignent du bruit.
J'ai toujours entre 8 et 10 appels pendant l'été de gens qui se plaignent. L'histoire de couper des arbres parce que y avait trop de feuilles, véridique. Moi, mon voisin, qui est une ancienne activité agricole, c'était une lavandière. Mmh. Ils avaient deux magnifiques pins qui faisaient de l'ombre à la Bastide. Et les nouveaux propriétaires, puisqu'on en est au 8e ou 9e propriétaire, comme ce sont des résidences qui font l'objet de très fortes valeurs ajoutées.
Ouais. Ils font de la spéculation.
Ils vendent.
Pardon.
Ils font de la spéculation.
Ils revendent pour faire du fric, évidemment.
Voilà, ils revendent pour faire du fric. Ouais. Et là, ce sont des riches Hollandais qui ont acheté. Et madame se plaignait du bruit des cigales dans les pins.
Non.
Je vous le mets en mille. Avant de les couper, ils m'ont demandé si je connaissais des produits insecticides pour sulfater les pins. Parce que ça faisait trop de bruit. Et comme j'ai refusé, bien sûr, vous savez ce qu'ils ont fait. Ils ont coupé les pins.
Mon Dieu.
Voilà.
Ils vous ont coupé les pins, mais les pins, ils étaient à qui?
Pardon?
Ils étaient à qui les pains? À eux?
Ah, chez eux.
Ouais. Et ils ont coupé les pains.
Aujourd'hui, nous avons de nouveaux propriétaires, ce sont des Suisses.
Qui ont mis des pains.
Ils ont replanté. Inévitablement, ils ont d'autres formes de nuisances. Par exemple, la dernière nuisance en date, c'est une nuisance d'ordre visuel. Ils ont estimé que de leur fenêtre, ils avaient le droit de ne pas voir de câble téléphonique ou de câble électrique. Et comme moi, j'ai une grande parcelle agricole, puisqu'on est un peu plus sur 450 hectares, sur une partie de mes terres, j'ai une ligne électrique à moyenne tension qui traverse
pour desservir
un hameau.
C'est pas de votre faute.
Tu as les mêmes arguments contre les éoliennes.
Ouais, ils sont venus me voir pour me demander d'enterrer la ligne.
Ouais. Thierry, est-ce que vous pouvez rester juste un instant avec nous?
Ouais.
Parce que je vais vous faire dialoguer avec un néo-urbain. Un neuro-urbain, plutôt. Eric, qui est avec nous. Bonjour, Eric.
Oui, bonjour à tous.
Bienvenue sur RMC. Vous êtes dans Côte d'Or, c'est ça?
C'est ça.
Dans quel coin?
Pardon?
Dans quel coin?
À côté de Saint-Bernon.
D'accord. Et vous êtes installé depuis combien de temps en milieu rural?
Depuis 2005, mais j'y allais très souvent avant aussi.
D'accord. Vous habitiez dans une grande ville avant?
Malheureusement, oui.
D'accord. Et comment ça se passe pour vous? Alors, l'installation à la campagne, les bruits, les odeurs, vous le supportez?
Le bruit des agriculteurs, il faut bien qu'ils travaillent. Moi, ça ne me dérange pas. Ils pompent l'eau à 5 mètres de chez moi pour nourrir les animaux, pour donner à boire aux animaux. C'est tout à fait le logique.
Et moi, mais il y a du passage, du coup.
C'est logique. Oui, tous les tracteurs et tout. Mais c'est surtout les gens qui viennent habiter à côté de chez nous, comme on est dans le centre du village. Par exemple, j'en ai un. Il se permet de couper du bois le soir, parce qu'ils se croient à la campagne, ils se croient tout seuls. Ils ont acheté des oies qui sont... Alors, entre les oies et nous, il y a uniquement le grillage.
Ouais. Il y en a beaucoup.
Il n'y a que deux oies, mais c'est invivable, on ne peut pas être chez nous, quoi. C'est impossible. Parce que tant que les oies vont nous voir, on n'entend qu'elles, quoi.
Thierry, Thierry, qui est toujours avec nous, c'est vrai qu'il y a quand même des limites, parfois. Ce que je veux dire par là, Thierry, ce que je veux dire par là, c'est que si vous habitez à côté de chez un agriculteur, tout se passe bien, ok, vous supportez, c'est normal que le gars sorte son tracteur, etc. Mmh. Bon, il a un tas de fumier, s'il le dépose juste à côté du grillage, alors qu'il pourrait de chez moi, alors qu'il peut le mettre au fond de son terrain.
Oui.
C'est vrai qu'il y a des limites, quoi.
Mais ça participe à des règles de bonne entente et de bon voisinage. Je prends l'exemple des fumiers. On fait du lisier naturel. Il y a une loi d'ailleurs qui est obligatoire dans notre activité. Quand on fait de l'épandage, on est censé ne pas laisser l'épandage odorant pendant plus de 3 jours. Donc inévitablement, c'est pour préparer des labours. Donc généralement, quand je fais de l'épandage, j'en fais pas en plein été, pour des raisons liées aux odeurs. On prépare les terres généralement dans des périodes où nous, les habitants résidents secondaires, parce que pour la plupart chez nous, ce sont des résidents secondaires, et que je rejoins ce que dit votre auditeur, il y a un respect de ceux qui vivent à l'année et qui y travaillent et qui font vivre. Moi, j'ai quand même 17 salariés, donc et qui vivent à l'année sur la proximité de nos terres, alors que les résidents secondaires, en effet, il y a des règles de bonne entente qui consiste à ne pas provoquer de nuisances. Mais par exemple, j'ai un élevage. Cet élevage, ça fait plus de 25 ans que nous l'avons. Le dernier résident secondaire me demande « Qu'est-ce que vous pouvez faire quelque chose parce qu'on a trop de mouches sur notre terrasse ?» Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais pas leur mettre une barrière ou une cage vitrée pour les empêcher de passer. Voilà. C'est malgré tout, il est vrai, le bruit des tronçonneuses, par exemple, moi, mes activités, je fais pas de bruit je sors pas mes tracteurs le dimanche. Je sors pas mes engins de débroussaillage ou de coupe le dimanche. Il y a quand même des règles de
bienveillance. Ni l'été après 20h ou 21h.
Voilà, et je travaille pas de nuit. Il est vrai que mes plus proches voisins, mon plus proche est à 900 mètres de chez moi. Quand il est en pleine période estivale, j'en suis même arrivé à un moment donné à ne pas faire de moisson au moment où il occupe sa piscine, parce que ça fait de la poussière. Cette poussière vient se déposer sur l'eau et ça encrasse ses filtres. Bon, vous imaginez jusqu'au point où on est obligé de trouver
compliqué, très compliqué.
Cohabitation.
Ouais, mais ça peut vite devenir très compliqué.
Mais il est vrai que le fait d'acheter deux oies dans un milieu entre guillemets périurbain de type de campagne, des oies, on sait que ce sont des alertes. Inévitablement, ça fait énormément de bruit. Il y a quelqu'un qui garde un gros chien dans sa cour et qui aboie toute la journée.
Exactement. Voilà. Merci Thierry d'avoir été avec nous. Belle journée à vous du côté du Vaucluse qui était avec nous au 32-16, tout comme Eric qui était en Côte d'Or. Et c'est maintenant Pierre Morel à l'huissier qui nous rejoint. Bonjour Pierre Morel à l'huissier.
Bonjour.
Vous êtes député de Lozère et c'est vous qui êtes l'auteur, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, de la proposition de loi sur le patrimoine sensoriel. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste cette proposition de loi ?
C'est venu de plusieurs articles de presse, notamment de presse quotidienne, qui ont relaté des difficultés rencontrées par des voisins, par des personnes qui étaient...
Jean-Louis Maurice.
Qui faisaient des procès à des voisins sur un coq, sur un âne, sur des bouses, sur de la bouse sur la route ou de la boue sur la route. Bon. Donc j'ai regardé avec les services de l'Assemblée nationale le nombre de dossiers de troubles de voisinage qui étaient liés à cette problématique. Il y en a beaucoup. On avait déterminé 18 000 dossiers qui concernent des conflits entre voisins. Et quand ces conflits s'enveniment, ça touche le maire de la commune, puis ça touche le préfet et ça touche le procureur de la République. Et donc ça met la panique dans tout un village pour simplement des problématiques de vivre ensemble. Et donc, j'ai défini un texte qui a été validé avec le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État peut être consulté sur les aspects juridiques. Et nous avons décidé que les bruits et odeurs de la campagne fassent partie du patrimoine de la nation.
Alors, voilà, ça veut dire quoi concrètement ? Si je suis habitant d'une commune rurale et qu'il y a d'autres habitants qui viennent de s'installer il n'y a pas longtemps, qui commencent à râler parce que je sors mon tracteur ou parce que il y a mes oies qui poussent des cris de temps en temps, ça me protège de quoi ?
Ça protège le fait que maintenant le juge qui est saisi de ce genre de litige doit, dans son raisonnement juridique, intégrer les caractéristiques du territoire et dire à ces personnes, vous arrivez, mais il y a une règle d'antécédent dans
d'accord.
le village. Il peut y avoir quand même des nuisances, monsieur le député.
Pardon ?
Il peut y avoir des nuisances. Par exemple, si un élevage industriel s'installe à côté de chez moi, j'aurais peut-être envie quand même d'essayer de me battre.
Pas la même chose.
Il y a des règles. On ne peut pas installer à côté de chez vous un élevage industriel. Il y a des règles à respecter, il y a des règles de distance. La loi n'est pas là pour régler ce genre de problème.
D'accord.
Quand on fait une mare au canard, quand on fait une mare à grenouille, il y a des autorisations administratives à obtenir. Donc, première chose. Deuxième chose, le juge, aujourd'hui, doit considérer les circonstances de lieu dans lequel s'inscrit le conflit de voisinage.
D'accord. Avoir un poulailler alors qu'on habite dans un petit village,
je vous prends l'exemple d'une jurisprudence classique. Quelqu'un s'installe à côté d'une salle des fêtes et dit au bout d'un mois, il y a trop de balles, il y a trop de musettes,
le juge lui dira.
Il fallait penser avant.
C'est votre arrivée. Il fallait en tenir compte.
Bah voilà, exactement. Fatima.
Moi, je suis d'accord avec vous, hein. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Après, est-ce que vous n'avez pas peur que cette idée de patrimoine sensoriel fige la situation par rapport à des problématiques qui pourraient être subies par les personnes qui vivent dans ce village, hein. Pas forcément des personnes qui viennent d'ailleurs, qui voudraient s'entendre entre elles pour, tout à l'heure, ils étaient en train de parler de règles tacites, on va dire, de convenances. Et peut-être que, parfois, il y a des vraies nuisances qu'ils subissent, même entre eux, hein, sans l'arrivée de citadins. Et que cette histoire de patrimoine sensoriel les empêche, en fait, d'avoir des règles qui, par exemple, comme il disait, empêchent d'avoir des oies à proximité d'un voisinage ou quoi que ce soit.
Non, le juge, ma loi n'interdit pas le recours au tribunal. Le recours du tribunal est un droit naturel de tout individu. Le juge va examiner dans le dossier si le trouble de voisinage est anormal. S'il est anormal, s'il dépasse les circonstances normales d'une vie en commun, il sanctionne.
Voilà.
Donc ça lui donne. Il a toute l'attitude, le juge. Sauf que il peut dire désormais, quand vous êtes installé dans ce village, dans ce hameau, vous saviez que vous allez dans un territoire rural qui avait ses règles, ses bruits, ses odeurs.
Pierre Morel à l'huissier, restez avec nous, s'il vous plaît. Je voudrais vous faire entendre le témoignage de Guillaume qui nous rejoint au 32-16. Bonjour Guillaume.
Oui, bonjour.
On est dans les Pyrénées-Atlantiques.
Bonjour.
Tout à fait.
À Navaillargos. Tu connais
Béarn.
À côté de Pau.
À côté de Pau. Guillaume, vous habitez donc ces milieux ruraux. Combien d'habitants à peu près à Navaillargos?
Je sais pas, peut-être 2000 habitants.
D'accord. Et les bruits et les odeurs de la campagne, ça pose problème pour vous?
Les odeurs, moi, ça me dérange pas. C'est les bruits. Donc, il y avait l'agriculteur qui passait juste avant, qui disait, moi, le dimanche, je passe pas. Ou des choses comme ça. Très bien, il respecte. Moi, j'ai un agriculteur à côté. 22h la nuit, il vient labourer son terrain. Le dimanche de Pâques, l'année dernière, par exemple, où j'étais en train de faire le barbecue, 12h15, il est arrivé, il a commencé à labourer son terrain, donc la poussière, merci, on a tout rangé. J'ai été le voir, il dit, moi, je m'en fiche, je travaille la semaine, j'ai que ces créneaux-là. Donc le respect, ça va dans un sens comme dans l'autre.
Ah, évidemment. Évidemment.
Il y a une plage horaire, moi, je lui dis, écoutez, si vous venez la semaine de 8h à 18h le soir, parce que nous, on peut aussi, on travaille toute la journée, toute la semaine. 18h, on peut avoir envie de faire un barbecue, on n'a pas envie d'avoir des...
Et qu'est-ce qu'il vous a répondu?
Que je travaillais pas la semaine. Parce que je suis en télétravail.
Ah d'accord, ok. Ok, Pierre Morel...
Je devais m'adapter.
Ouais. Merci Guillaume d'avoir été avec nous au 32-16. Pierre Morel à l'huissier, bon, typiquement là, votre proposition de loi, enfin c'est la loi sur le patrimoine sensoriel, elle rentre pas dans ce cadre-là. Là, c'est
non,
clairement...
Non, elle ne rentre pas dans le cas où le voisin fait du bruit par malice,
anormal,
par mauvaise volonté.
Voilà.
À un moment donné, travailler à 22h, on est dans des heures nocturnes, c'est interdit. Il y a tout le dispositif législatif qui permet la réglementation du bruit. Et je sais bien que des fois, qui mettent une tronçonneuse à 7h du matin. Non, pas de tronçonneuse à 7h du matin.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre Morel à l'huissier, député de Lozère, auteur de la proposition de loi sur le patrimoine sensoriel. Et on va prendre un dernier témoignage, celui de Jérémy au 32-16. Bonjour Jérémy.
Bonjour.
Une région que tu aimes aussi, je le sais, on est dans le Cantal, dans le Cantal à côté d'Aurillac. Très bien. Les bruits, les odeurs de la campagne, on doit s'y faire, oui ou non?
Eh bien, on doit s'y faire parce que, si vous voulez, il y a eu plusieurs personnes, nous, qui se sont plaintes au sujet de bruit, qui faisaient du bruit de matériel après 22 heures, par exemple.
Vous êtes agriculteur?
Oui, tout à fait. Ouais,
d'accord.
Et si vous voulez, par exemple, une fois, nous, on semait du maïs à 22h30, et une personne sur les réseaux sociaux a bien marqué, les bruits de casserole après 22h, c'est pas trop logique, parce qu'un dimanche soir à 22h, les agriculteurs, ils n'ont pas le temps la journée de travailler. Donc, ils viennent le soir. Quand j'entends des choses comme ça, et après un autre voisin, les gendarmes sont venus l'arrêter dans le champ à 23h30. Il a remané des bottes, quoi. Et si vous voulez, c'est qu'une fois par an dans ce champ. C'est tombé pardi ce soir-là. Et les gendarmes sont venus l'arrêter. De travailler, quoi.
Ouais,
le voisin, c'était plein. Et c'est qu'une fois par an à 23h20. Par contre, on fait bien la fête le samedi soir jusqu'à tard dans la nuit, mais la semaine, on n'aime pas ça.
Merci Jérémy d'avoir été avec nous au 32-16 sur RMC, RMC Story. Bah voilà, et après il y a les conflits de voisinage traditionnels, et puis il y a les choses qui paraissent évidentes quand on habite à la campagne. On vous a posé la question d'ailleurs, chant du coq, odeur, tracteur, doit-on tout supporter quand on habite à la campagne ? Verdict, je suis pas étonné, je le vois.
C'est un plébiscite, hein. 80-90% vous dites oui, à 10% vous dites non. Un message qui résume bien, parce que beaucoup de gens ont répondu de manière assez remontée. Kevin qui dit s'il ne supporte pas la campagne, qu'il rentre chez eux respirer le CO2. Pourtant, ils sont bien contents d'acheter local après.
Voilà, j'ai envie de dire, si vous habitez une grande ville, que vous avez pour projet, pour les enfants, pour la famille, d'aller vivre à la campagne, c'est un très beau projet. Et soyez prévenus, faites-vous un petit peu discret. Voilà. En tout cas, sur ces questions-là, on est d'accord, Perico. C'est
oui, un bon conseil qu'on peut donner. Un petit peu de bruit, un petit peu d'odeur.
Il va falloir prendre le temps de s'intégrer. Voilà. Et on s'intègre pas forcément quand on arrive et qu'on dit oh, c'est quoi cette cloche-là.
Vous avez des gens, quand ils arrivent en vacances, ils me disent c'est où le bruit de l'autoroute, parce que je commence à paniquer.
Allez, dans un instant, les immanquables d'Alfred Orange dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi,
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, sur RMC Story, le canal 23 de la TNT. Vous n'allez rien rater de l'actualité aujourd'hui, c'est une promesse. Et c'est Alfred Orange qui vous l'a fait.
RMC, Estelle Midi,
les immanquables.
Les immanquables avec Alfred Orange. Donc Alfred, on commence par la photo du jour, celle de Jean-Luc Mélenchon.
Oui, c'est sa nouvelle affiche de campagne pour les législatives que le service politique de RMC a d'ailleurs révélé en exclusivité. Sur la couverture des tracts, on voit le portrait du leader de la France Insoumise avec inscrit Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, message limpide qu'assume l'équipe de campagne. On veut faire une campagne nationale en martelant un message unique. Voilà, les choses sont claires.
Ben voilà, Perico, ça y est, Jean-Luc Mélenchon est quasiment Premier ministre.
Ça veut dire qu'on demande à M. Emmanuel Macron de nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre. Voilà la signification institutionnelle de cette affiche. Voilà. Alors, on a compris que c'est... On contrôle la loi. Mais si on applique la Constitution, ça veut dire qu'on demande au président de la République aujourd'hui de nommer M. Mélenchon Premier ministre. Voilà. Il ne sera pas élu Premier ministre, c'est l'Assemblée nationale qui désignera.
On élit des députés et on.
Oui, voilà, et l'Assemblée nationale.
C'est surtout que de la part de quelqu'un qui a fustigé la monarchisation du pouvoir, le jupitérianisme de Macron, je trouve ça quand même assez cocasse, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi je pense qu'intimement, il sait qu'il ne gagnera pas la majorité absolue. Ah, j'en suis intimement persuadé.
Peut-être pas.
Et je pense que, comme les versements publics d'argent aux partis se font en fonction du nombre de candidats, du nombre d'élus et du nombre de voix, il a intérêt à être massif. La deuxième chose, c'est que, comme tu l'as dit, on élit des députés et il se pourrait très bien, même s'il avait la majorité.
Et c'est
absolue,
le président qui le nomme.
Le président décide de nommer Quatennens ou nommer
Exactement.
Et pas Mélenchon. Voilà. C'est pas lui qui décide, c'est le président. Ouais. Et puis enfin, c'est une extrême personnalisation du pouvoir. Ah ouais. Et je pense que c'est, de la part de la France Insoumise, un aveu d'échec. Et en tout cas, ça ne prépare pas la suite parce que ça ne fait pas naître autour de Mélenchon, qui a quand même dit le soir du premier tour je vous laisse les clés du camion, faites mieux que moi. Il a quand même une envie de reviens-y et ça empêche tous ceux qui sont autour de pouvoir s'émanciper et de grandir.
Moi, j'avais compris comme ça d'ailleurs ce soir-là, quand il a dit ça. Quand il a dit voilà ce qu'on a fait, on n'était pas loin.
Il parlait de 2027.
Il a dit voilà, ce coup-ci, on n'était pas loin.
Faites mieux.
Certains jeunes, s'ils me disent on a encore raté, faites mieux que moi.
C'était pour la présidentielle.
C'était
élégant. Et je me disais. Non, il passe la main.
Non, c'était pour la présidentielle. Et quand il dit, et on l'a un petit peu taquiné, quand il dit c'est le président le plus mal élu, c'est le président le plus mal élu politiquement, puisque les 30% supplémentaires à ces 28, c'est un vote de non-adhésion.
Fatima, tu l'interprètes comment cette affiche là, qui est quand même, alors, pour ceux qui l'ont pas vu, je le rappelle, Alfred en parle un instant, mais vraiment, on voit le visage de Jean-Luc Mélenchon, et c'est vrai que c'est écrit Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, comme s'il l'était déjà, quoi.
Depuis qu'on a énormément rapproché les législatives aux présidentielles, en fait, s'il y avait autant de participation aux législatives qu'aux présidentielles, la proportionnelle serait respectée. Donc en fait, la seule stratégie qu'il a, c'est d'indexer dans sa communication les législatives et la présidentielle. Et il faut savoir que les députés aujourd'hui, ils sont élus au nombre d'inscrits à 40 à 50%. Donc en fait, ce qu'il est en train d'essayer de faire, c'est de la mobilisation. La seule chose qui peut lui permettre effectivement cette victoire, c'est qu'il y ait autant de participation, c'est que les personnes ne désespèrent pas en disant c'est bon, on a perdu la présidentielle, et qu'ils disent attention, il y a un troisième tour.
C'est assez malin quand même. C'est-à-dire qu'on a perdu la présidentielle, mais
Sa seule marge de manœuvre, c'est la mobilisation de son électorat.
Oui, mais c'est pas une revanche pour autant.
Oui, mais on va dire sa seule marge de manœuvre, c'est le taux de participation aux législatives. Et de fait, il doit mobiliser son électorat en lui disant ne vous inquiétez pas, tout n'est pas perdu.
Voilà.
Donc, c'est une stratégie, en fait, qui est assez maligne.
Le chiffre du jour, tout de suite, Alfred, celui des horaires décalés.
Oui, il provient d'une étude de l'INED, c'est l'Institut national d'études démographiques qui publie cette étude aujourd'hui. 36% des salariés travaillent désormais habituellement en horaires atypiques, c'est-à-dire tôt le matin, la nuit ou tard le soir. Et ce sont les femmes qui sont le plus exposées, en particulier les moins qualifiées. Elles sont de plus en plus à travailler le samedi et le dimanche. C'est particulièrement vrai pour les vendeuses ou le personnel de ménage. Sachez, messieurs, que c'est les femmes désormais qui proportionnellement sont plus nombreuses à travailler sur ces horaires atypiques.
Fatima.
On le disait déjà en 2015, quand il y a eu la loi Macron, on a tout de suite dit, attention, la grande majorité des travailleuses du dimanche, ce sont des femmes.
C'est énorme quand même ce chiffre. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait quasiment 4 salariés en France sur 10 qui travaillent en horaire atypique. Très tôt le matin, très tard le soir, la nuit, les week-ends.
Si, les vendeuses et tout.
Ouais, mais cette ampleur, 4 salariés sur 10,
c'est énorme. En tout cas, nous, ça fait très longtemps qu'on milite, en tout cas les féministes, pour une stricte limitation du travail de nuit, du travail le week-end, des horaires atypiques, etc. On veut le réduire vraiment aux activités nécessaires. Il faut savoir que, par exemple, le travail de nuit augmente de 30% les chances pour les femmes d'avoir un cancer du sein, selon l'INSERM. Donc, c'est effectivement... ça frappe, et depuis toujours, en fait, le travail féminin est marqué par les horaires atypiques, par la déstructuration. En fait, le travail féminin était vraiment un laboratoire pour penser la flexibilité du code du travail, qui, après 7 ans, on va dire aux autres catégories. Et c'est pas pour rien que les femmes sont les plus concernées par toujours en première ligne des réformes ultralibérales qui passent.
Je bois les paroles de Fatima, rien à rajouter.
Après le travail, il faut qu'il soit ces horaires-là, il faut qu'ils soient choisis. Moi, je connais des jeunes dans mon
entourage
qui veulent travailler le dimanche,
mais c'est parce qu'ils savent que c'est mieux payé.
C'est volontaire.
C'est une gestion. Donc voilà,
il faut faire attention. J'ai entendu encore ce matin un témoignage de quelqu'un qui sur notre antenne qui travaille de nuit. Et qui pour rien au monde, parce que
il y a des demandeurs de ça.
Non, c'est un choix.
Mais il faut qu'il soit conscient de l'impact sur sa santé.
Absolument.
Voilà, c'est vivre.
Forcément, il y a un impact.
L'être humain n'est pas fait pour vivre la nuit.
C'est toujours ce que m'a dit ma mère. Je travaillais très tôt le matin.
Allez, la victoire du jour. Elle est à mettre au crédit de la ville et de la métropole de Toulouse. Le tribunal administratif de la ville rose vient de condamner l'État à verser 1,2 million d'euros pour réparer les dégâts qu'avaient provoqués les gilets jaunes lors de manifestations à Toulouse. L'État a été reconnu civilement responsable de ces dégâts. C'est quand même une maigre consolation, c'est une victoire, mais Toulouse avait à l'origine demandé 4 millions d'euros de dommages. Voilà, ils en récupèrent 1,2 million.
Normal ou pas, Thierry, que ce soit l'État qui paie?
Je trouve ça encore une partie. Je trouve ça un peu honteux. Après, dans les attendus du jugement, il est peut-être notifié des manquements du maintien de l'ordre qui explique que l'État soit responsable. Je pense que c'est là-dessus que se base le jugement.
Bien sûr.
Mais moi, j'ai envie de dire pourquoi on n'envoie pas la facture aux gilets jaunes, c'est-à-dire à ceux qui ont cassé.
C'est les plus précaires.
Quand on manifeste, on peut manifester. Aujourd'hui, on est dans un pays où on peut manifester librement. En revanche, on n'a pas le droit de casser. Voilà, c'est la seule chose, c'est l'interdit. Et je pense que quand on casse, on doit être responsable et on doit payer.
Ta lecture n'est pas honnête de la situation. Si l'État est condamné, c'est que les causes de revendication des gilets jaunes sont des causes voulues par l'État, par le gouvernement.
Non, c'est pas ça, c'est pas le sens de la condamnation.
Pas ça.
C'est l'État est responsable du maintien de l'ordre.
Je parle pas du fond du jugement. Ouais. Je dis que ils ont cassé parce qu'ils sont en divergence avec l'État. Ils sont allés casser la ville de Toulouse qui n'avait jamais demandé parce que l'on augmente les taxes de donc c'est normal que le responsable de la crise
C'est celui qui a cassé.
Ça, c'est en pénal. Ouais. Pénalement, oui.
Si tu casses demain matin la voiture de ton voisin, tu vas aller en taule.
On n'est pas sur le plan pénal, on est sur le plan politique. Sur le plan politique, c'est une décision du gouvernement qui a provoqué les gilets jaunes. Le gouvernement assume, pas la ville de Toulouse.
Donc, heureusement qu'on n'a pas donné la facture aux gilets jaunes, qui sont le symptôme d'un déclassement, même des catégories qui pouvaient travailler, qui normalement devraient pouvoir vivre de leur salaire. Et deuxièmement, je suis absolument en désaccord avec Thierry. C'est-à-dire que déjà, il dit, en France, on peut manifester normalement et sans répression. C'est faux. D'ailleurs, je t'ai transféré nos témoignages, nos nombreux témoignages sur les répressions des manifestations, par exemple, du 1er mai.
En Russie, tu vas voir.
Il y a toujours pire, il n'y a pas de problème, mais il y a toujours mieux aussi. En tout cas, les affrontements et les casses qu'il y a dans un endroit sont une co-construction de l'affrontement entre les Gilets jaunes, entre autres, et les forces de l'ordre.
Donc, c'est ce qui produit. T'es en train de dire que les dégâts, c'est une co-construction des forces de l'ordre.
Absolument. Tu vois n'importe quelle scène d'affrontement entre les manifestants et les policiers, les policiers participent à casser. Quand ils envoient une grenade de désencerclement, ça casse des vitres, ça casse du mobilier urbain.
Les voitures brûlées, c'est pas les policiers qui mettent le feu aux voitures.
Non, mais tu peux parler des voitures brûlées. Moi, je te parle de ce qui se passe. Et d'ailleurs, quand tu envoies des armes, des LBD, etc., de fait, ça participe à la scène d'affrontement.
On fait quoi ?
Donc, en fait, déjà, il faudrait suivre les recommandations de la Messie. Les Gilets jaunes, quand ils allaient au champ.
Le Fougas qui a été brûlé, c'est la faute des policiers.
Tu peux toujours citer ces exemples-là.
Il y en a eu plein.
J'ai publié des témoignages qui montraient que quand on allait pacifiquement manifester, ça finissait en affrontement face à des armes lourdes. Amnesty International
a dit. L'arc de triomphe qui a été saccagé, c'est la faute de la police.
Je peux t'assurer qu'il y a plein d'endroits. Et d'ailleurs, regardez magnifique documentaire. Oui, d'ailleurs, ça se passe dans les Champs-Élysées. Le documentaire, là, un pays qui se tient sage, on voit les scènes où les policiers. Dans les scènes d'affrontement avec les manifestations, participe à la destruction du mobilier. Donc, ce qu'il faut, c'est garantir pour qu'on puisse remanifester normalement comme on le faisait depuis 2016. Entre 2009 et 2016, j'ai manifesté pacifiquement et il n'y avait pas ces scènes de guerre qu'on fait subir d'abord aux manifestants.
On peut demander au peuple de rembourser la Bastille aussi pendant qu'on y est. C'était une dépravation épouvantable qui a menacé le régime.
Il n'a pas détruit la Bastille. Ils l'ont juste prise après a été démonté par quelqu'un qui s'appelait Palois et qui a fait beaucoup d'argent sur la déconstruction de la Bastille.
Allez, le coup de gueule du jour. On va parler poisson. On est pas vendredi, mais c'est comme ça.
Il est signé de l'ONG WWF qui publie aussi une étude aujourd'hui. Et la France importe désormais, ça va plaire à Perico, 66% des poissons et crustacés qu'elle consomme. Ils ont fait une étude de cas. Si au 1er janvier, les Français ne se mettaient qu'à acheter des produits de la mer pêchés et élevés en France, les rayons seraient vides dès le 2 mai, moins de 6 mois après le début. L'organisme précise que nous mangeons en moyenne 20 kilos de poisson par an, c'est deux fois plus qu'il y a 50 ans. Une dernière donnée, si la France importe autant, c'est aussi parce qu'elle est obligée de respecter des quotas pour permettre à ses fonds marins de se régénérer.
Perico, moi je me souviens quand j'étais gamin, c'est il y a quelques années, mais dans les années 80, le saumon par exemple, les filets de saumon, c'était un produit de luxe.
Alors, le saumon était un produit de luxe parce qu'il était rare.
Non, mais c'était un vrai produit. Mais justement, la première fois que j'en ai mangé, me souviens, c'était pour, et j'étais issu d'une, mes parents étaient, comme on dit, des Français moyens, donc on n'était pas dans la misère, loin de là. On vivait correctement. Mais je me souviens que c'était pour ma communion. Mes parents m'avaient emmené au restaurant. Et c'est la première fois où j'ai mangé des filets. Aujourd'hui.
Mais tout à fait.
Et tout le monde en mange.
Et d'ailleurs, c'est parce que c'est un produit de luxe que le système néolibéral, notamment la grande distribution, a dit on va en faire un produit populaire démocratique, mais pour qu'il soit accessible à tout le monde à des prix dérisoires, on va en faire de la merde. Voilà. Et le foie gras, même chose. Et on a décrété que tout le monde pouvait avoir, or ce sont des produits rares, chers et de saison. C'est terrible, mais c'est comme ça. Quel est le premier poste de poissonnerie en France aujourd'hui? La première poissonnerie, les rayons de poissons surgelés des grandes surfaces. Et du poisson qui vient évidemment de l'extérieur de la France. On avait un patrimoine de pêche exceptionnel, on avait des quotas de pêche, les industriels s'en sont emparés. Une fois de plus, la grande distribution a fait des campagnes de pêche.
Attention, les quotas, ce qu'a dit Alfred, on les respecte en France.
C'est ça.
Mais comme on consomme beaucoup plus que nos quotas, on importe de partout.
Non,
mais
on va pourrir les fonds marins ailleurs.
Pourquoi les quotas ont baissé? Parce que la pêche pinotière ramasse tout pour faire de la farine de poisson pour les élevages piscicoles industriels. Et c'est pour ça qu'on dépeuple le fond des mers.
Mais c'est quoi la solution alors?
De manger autrement.
Donc moins de poissons.
Mais oui, t'en manges une fois par semaine.
Non, c'est dont on a besoin. comme la viande, ce dont on a besoin, et faire en sorte de produire ce que la consommation française a besoin quand il y en a disponible. Sinon, on mange autre
chose. Et il y a des saisons pour les poissons.
Et bien sûr qu'il y a des saisons par variété. La Saint-Jacques.
On est entré dans un modèle pour moi qui est agro-industriel qui fait qu'il nous garantit d'avoir des fruits et des légumes et des poissons, etc. tout le temps, toute l'année. Et c'est ça qui provoque de l'autre côté de la chaîne une production qui est intensive sous serre, avec des milliers de hectares sous serre, avec un flux tendu, avec une main d'œuvre qui est d'autant plus exploitée. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on va chercher de plus en plus de migrants notamment les saisonniers agricoles.
Ils veulent travailler.
Du saumon, on en mange
qu'à Noël. Je vous engage à voir le documentaire dans l'enfer des exploitations de fraises qui le font dans des conditions indéfendables. Donc, je pense effectivement qu'à un moment, il faut admettre, si on veut manger français, de ne pas manger de tout et toute l'année.
Juste une dernière donnée, parce que WWF fait des recommandations pour soulager certaines espèces de poissons. Elle demande par exemple de sauvegarder le bar en privilégiant la consommation. Alors, je ne connaissais pas ce poisson, du mulet.
Bah, bien sûr.
Le mulet.
Ah, c'est pas la même chose.
C'est tout à fait la même chose.
Voilà. Un petit cheval.
Et le merlan, il l'aliment à la place de la sole.
Ils disent dans le même article qu'il ne faut plus manger de crevettes, par exemple, parce que ça vient de fermes qui sont.
Mais on en mange tout le temps aujourd'hui.
Ben voilà.
Enfin, tu pourrais défendre la sardine de Saint-Gilles-Croix-de-Vie quand même.
La sablaise, extraordinaire.
Rico, c'est pas une colle. C'est quoi le poisson du moment? C'est pas une colle, tu sais pas? Le poisson du moment.
Du moment, là. Ouais. C'est le maquereau c'est les poissons bleus.
Les poissons bleus.
Ouais, ça commence maintenant. Les poissons bleus, anchois, maquereau, sardine.
Très bien, bah, parfait. Le dilemme du jour, Alfred.
Oui, il est signé Liliane Droniak, une TikTokeuse américaine de 92 ans qui, dans une vidéo vue plus de 30 millions de fois, donne les règles à suivre pour son futur enterrement.
These are my rules at my funeral. Listen up. You could cry, but don't.
Alors voilà ce qu'elle dit. Point 1, on peut pleurer, mais pas trop. Point 2, ne pas inviter Bertha, qui serait en fait une ancienne amie qui draguait son mari défunt. Et surtout, point 3, le plus important, vous feriez mieux d'être bourré avant la fin, boire ou se recueillir. Rémi, est-ce qu'il faut choisir?
Bon, on fait ça avec
modération.
Avec modération, évidemment. Mais
à cet âge-là,
Perico. Ah, c'est mignon, c'est anecdotique.
Oui, voilà.
On termine avec un sourire. Mais c'est vrai que est-ce que t'as déjà, non, alors là, très sérieusement, il y a certains qui, tu sais, qui rédigent.
Oui.
Qui font leur volonté anticipée.
Oui, bien sûr.
Héritage, on parle pas de là, mais volontairement. Tu as déjà pensé ou pas?
J'ai fixé le menu.
C'est vrai?
Que je fournis.
C'est vrai?
J'ai fixé le menu que je fournis. Je vais laisser les fonds pour faire ça. Il y a des gens qui, dans leur testament, et c'est Pierre Berger, a offert à tous ses amis un gueuleton absolument
magnifique.
Ça sera
quoi ton menu? Ça sera quoi ton menu?
Ah, je vais pas le révéler maintenant parce que tout le monde va vouloir venir.
Tout le monde va vouloir te tuer surtout.
Bien sûr.
Et surtout, cette vidéo, elle a une morale en fait, parce que ce que veut dire cette TikTokeuse, c'est qu'elle veut dédramatiser la mort, montrant qu'en fait, on a une meilleure vie si jamais on ne redoute pas la mort.
Voilà. Il y a des cérémonies dans le monde qui ne font pas du moment de l'enterrement un moment qui est forcément de pleurs, mais aussi de joie. Puis ça me rappelle Jacques Brel, tu sais, je veux qu'on rie, je veux qu'on danse, je veux qu'on s'amuse comme des fous à mon enterrement.
Allez, dans un instant, on va garder le sourire. On a réussi à parler de mort avec le sourire quand même. Et on va garder le sourire puisqu'on va jouer. Il y a des vacances à gagner. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC, RMC Story, il est quasiment 14h50 et à cette heure-là, tous les jours, dans Estelle Midi, on joue avec vous.
RMC, Estelle Midi,
le quiz d'Estelle.
Et qui dit jeu, dit évidemment cadeau, l'eau, évidemment. Et Alfred, aujourd'hui, on gagne?
Toute la semaine, on peut gagner une semaine de vacances pour 4 personnes avec VVF. Vous allez pouvoir choisir parmi plus de 100 destinations partout en France. Profitez d'activités sportives, de rando, du VTT, du surf. Il y en a pour tous les goûts, des activités en pleine nature. Pour remporter votre semaine VVF, appelez le 3216 touche 4 ou envoyez le mot quiz au 732-16. Quiz au 732-16.
Et c'est ce qu'on fait justement Angélique et Nassim. Bonjour Angélique, je commence par vous.
Bonjour.
Bienvenue dans Estelle Midi. Vous nous appelez d'où, Angélique?
De Sète.
De Sète. Connais bien Sète.
Il y a des poissons là-bas.
Et bon, là-bas, on en parlait, il y en a du poisson.
La palangre.
Vous faites quoi dans la vie, Angélique?
Je suis mère au foyer.
Très bien, beau métier. Avec qui voulez-vous jouer?
Avec Fatima Benoma.
Ça sera un duo féminin, Angélique, avec Fatima. Et il y a également Nassim, donc, qui est avec nous. Bonjour Nassim.
Bonjour tout le monde.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Nassim, vous habitez où?
Lyon.
Lyon, très bien. Et vous voulez jouer, capitale de la gastronomie, Perico, évidemment. Vous voulez jouer avec qui?
Avec Perico.
Évidemment, Perico, évidemment.
On va essayer de gagner parce qu'en face, elles sont costauds.
Hein. Oui. Et donc, ce sera évidemment un arbitre hors pair que nous aurons aujourd'hui, puisque ce sera Thierry qui sera chargé de surveiller tout ça.
Bon, revanche.
Vous connaissez le principe, je vais vous poser des questions sur l'actualité générale. Et la première de ces questions, elle est une question réservée à Angélique et à Nassim. Perico, Fatima, vous n'avez pas le droit de jouer sur la première question. Angélique, Nassim, vous êtes prêts?
Ouais.
On y va. Quel chanteur britannique a été choisi pour faire le concert de clôture lors des célébrations? Bien, Nassim, affûté Nassim. Ce sera en effet Ed Sheeran, donc, qui chantera pour le concert de clôture lors des célébrations du jubilé de la reine Elisabeth II. Ce sera en juin prochain. Question de culture générale à présent. Donc déjà un point pour l'équipe Nassim Perico. Culture générale, tout le monde peut jouer désormais. Perico, Fatima, entre autres. Quelle personnalité politique a rendu célèbre la phrase suivante? Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine.
Angélique.
Oui. Non. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Qui a dit ça?
Mitterrand.
Je vous donne un indice. Ça doit te parler, Fatima, notamment. C'était un célèbre activiste sud-africain.
Mandela. Ah.
Eh oui, Nelson Mandela, je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme.
J'aurais pu te la laisser.
J'ai pas la même.
C'est lorsqu'il était enfermé à la prison de Robben Island, où il a passé 27 années.
J'aurais pu te la laisser.
Deux points pour le camp Nassim Perico. On continue. Question cinéma. La semaine dernière, l'affiche officielle du 75e Festival de Cannes a été dévoilée. Mais. Non, de quel célèbre film s'inspire cette affiche? C'est un film avec Jim Carrey, c'est un indice.
Truman Show.
Oui, Truman Show. Bien joué, Perico. Bon, attention, hein, Angélique, Fatima, Nassim, Perico, prennent la distance. L'ascendant, exactement. Question musique. Quelle chanteuse française va faire sa première apparition dans une série à la télé au mois de mai? Indice sonore.
Mes chers parents, je sais,
Loin.
Ça m'énerve.
Pas
loin.
Loin, ouais.
Ils l'ont dit en même temps. Allez, dans ce cas-là, je mets un point à chaque. Je mets un point à chaque.
Non, on donne Angélique.
Allez, oui, la question charade.
Vous savez, mais elle n'avait pas le nom, c'est ça.
Question charade, elle vaut 2 points. Donc c'est l'occasion vraiment de vous y mettre, Fatima, Angélique. Et Perico et Fatima, vous ne répondez que lorsque j'ai dit mon tout, à partir de mon tout, d'accord? Sinon, Angélique et Nassim peuvent répondre plus tôt. Allez, la sculpture et la peinture sont des exemples de mon premier. Mon deuxième se dit lorsqu'une balle touche le filet au tennis avant de tomber de l'autre côté. Mon troisième est une note de musique. Selon la tradition, il faut s'embrasser sous mon quatrième pendant les périodes de fête. Mon cinquième est une clôture végétale. Mon tout est...
Arrête la guillée.
Oui, bien joué.
Allez, ouais.
Si, mon tout, c'est bon. C'est bon. Bien, Fatima, c'était Arlette Laguiller. Alors, sauf erreur de ma part, mais je sais que y a des gens qui nous écoutent là en régie et qui surveillent. On est à 3 pour le camp Angélique Fatima et à 4 pour Nassim Perico. C'est bien ça? On confirme? Oui. Ça fait 4-3.
Ah,
c'est très serré.
Serré, là. Hein.
Qui a dit le résultat du premier tour a été un gâchis? Il faut réussir à faire une coalition pour remplir l'Assemblée et marcher ensemble vers Matignon.
Mélenchon.
Roussel. Jospin.
Non, c'est une femme.
C'est Glenn Royal.
Non,
le
résultat du premier tour a été un gâchis. Il faut réussir à faire une coalition pour remplir l'Assemblée et marcher ensemble vers
Le Pen.
Vers Matignon, non.
Non.
C'est Crève.
Vous l'avez pas? On va pas toutes les
faire.
Sandrine Rousseau.
Ah, c'était pas loin.
Donc on en restera là parce que le temps a parti, c'est terminé. C'est une courte victoire, mais c'est une victoire tout de même pour Nassim qui gagne.
Une semaine pour 4 personnes avec VVF pour cet été. Vous allez pouvoir choisir, Nassim, entre 100 destinations partout en France pour profiter de toutes les activités sportives.
Le quiz d'Estelle sur RMC avec VVF. 100 destinations en France pour profiter de vacances sport, culture et nature en famille. VVF, là où tout commence.
Bravo Nassim, belles vacances d'avance. Et Angélique, bravo également parce qu'elle a bien joué. Elle était vraiment tout près, tout près. Belle journée, Angélique. Vincent Mascato nous rejoint. Vous l'entendez, il est là, oui. Il est à mes côtés. C'est impressionnant, c'est toujours impressionnant. Ça fait des années que je le côtoie, mais je suis toujours impressionnant. Je me mets bien.
Vous me mettez mal à l'aise. On reviendra sur ce match énorme hier entre Manchester City et le Real. 4-3, c'est parti de partout, c'était extraordinaire.
Puis et puis des beaux buts à chaque fois.
Benzema fait une doublée.
Des buts magnifiques à chaque fois.
Marche sur l'eau. Ah, il marche sur l'eau. Je dirais pas que c'est Moïse, mais il marche sur l'eau quand même.
Quasi, quasi.
Non, mais c'est presque. Klopp, entraîneur de Liverpool, est-il le plus fort? Klopp.
Eh oui, ce soir.
Liverpool, Villarreal.
Klopp, oui.
Sa fille, Filta.
On en a des camions. T'es sans filtre, toi.
Incroyable. Il met le paquet.
C'est pas mal.
C'est comme la sœur de Rachida Wilda. Toujours pas de retraite pour Federer.
Bah non.
Encore espéré.
Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que tu prends?
Et puis des hommages de Michel Bouquet.
Allez.
La nation, on lui rend.
Magnifique. Entre ici.
Valjean, tu es libre.
Allez. Bonne émission, Vincent le Super Mascotte au show dans un instant. Et nous,
Jean Valjean.
Estelle Midi, on se retrouve demain.
Jean Valjean.
Dès midi. Belle émission, Vincent.